Mais Mimi, Mimi, tu l'as mis où?
Ben, de quoi donc?
Le poste. C'est l'heure.
Ben, l'heure de quoi?
L'émission, l'agité du local. Sûr qu'elle dépasse tout.
Quelle est votre consommation des médias? Quel support? Quelle fiabilité des informations? C'est important de comprendre le fonctionnement des médias, bien comprendre ses exigences, son éthique et de garder un esprit critique. Aujourd'hui est une journée un peu spéciale car L'Autre Radio organise une journée autour du journalisme de proximité à Château-Gontier. Aujourd'hui, l'agité du local vous en parle, vous présente ce temps fort, une belle occasion également d'entendre d'autres voix de notre radio. D'ailleurs, Valentin Beuchet, notre animateur d'atelier, nous parle des projets qu'il met en place auprès des différents publics qu'il côtoie au quotidien. On aura l'occasion d'écouter des chroniques réalisées par les élèves du lycée Victor Hugo qui ont participé à ces ateliers durant cette émission. Caroline Delaval, également notre coordinatrice, sera à notre micro pour nous présenter le déroulé de cette journée spéciale organisée en partenariat avec la Fédération des radios associatives des Pays de la Loire. Alors chers auditeurs, bienvenue, nous sommes ensemble jusqu'à 12h45 et bien sûr à mes côtés Lucie. Lucie, bonjour.
Bonjour.
On ne perd pas nos bonnes habitudes, on commence cette émission avec un regard sur les actualités locales.
Pour commencer ces brèves, vous commencez à me connaître, chers auditeurs. Une fois n'est pas coutume, je traite le sérieux en premier. Pendant les vacances de la Toussaint, une femme a été attaquée et blessée aux mains par deux chiens errants dans la forêt de Bellebranche, à Saint-Brice. Elle a déposé une plainte à la gendarmerie et le ou les propriétaires des molosses n'ont pas encore été retrouvés. Pour expliquer un petit peu plus les faits, elle promenait son chien dans la forêt quand les deux molosses sont arrivés par surprise et se sont attaqués au chien. C'est en voulant s'interposer pour protéger son animal qu'elle a été blessée. Bon, maintenant, Margot, tu le disais en introduction, aujourd'hui est un jour un peu spécial.
Et oui, c'est vrai, on a un temps fort sur le journalisme de proximité ici à Château-Gontier.
Tout à fait, et c'est aussi l'anniversaire de mon poisson rouge. Bon d'accord, c'est faux, je n'ai pas de poisson rouge. Plus sérieusement, on est à J-253 avant l'ouverture des JO 2024.
Ah.
Et dans 253, il y a 53. C'est pour ça que le département organise une journée thématique. Il y en aura une pour tous les J- qui finissent par un 53. Et pour cette fois, il s'agit d'un concours de dessin. Les Mayennais sont invités à dessiner ce que représentent pour eux les JO et ou le passage de la flamme olympique en Mayenne. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez participer à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 27 novembre en envoyant vos créations sur Facebook et Instagram en taguant @la.mayenne ou par mail en écrivant à contact@lamayenne.fr. Les gagnants vont remporter des places pour la soirée des sportifs qui se déroulera le 15 décembre prochain. Et puis, notre département va aussi participer au financement des travaux de la ligne de fret ferroviaire entre Château-Gontier et Sablé-sur-Sarthe. L'avenant au financement a été voté mardi 14 novembre et va permettre de soutenir considérablement les travaux qui ont commencé en septembre 2023. Tout ça s'inscrit dans une volonté de consolider les flux existants, mais aussi d'en développer et pourquoi pas par la suite de développer des possibilités d'embranchement pour les activités économiques. À propos de transport d'ailleurs, Clément Beaune, notre ministre des Transports, est arrivé à Nantes ce matin, jeudi 16 novembre, pour y signer le contrat de plan d'État-région. Il s'agit de débloquer plus de 700 millions d'investissements pour développer les transports en Pays de la Loire et notamment des investissements massifs dans les lignes ferroviaires. Sur un tout autre sujet maintenant, à Ballot, il y a un nouvel électricien plombier qui vient de s'installer. Une bonne nouvelle pour les habitants qui vont pouvoir l'appeler pour des besoins en rénovation, évidemment pour des besoins électriques et de plomberie, et pour des besoins de dépannage. Il intervient principalement dans l'habitat individuel et les commerces, dans un rayon de 30 km autour de Ballot. Et pour ceux qui souhaitent le contacter, c'est Stéphane Godest au 06 02 38 75 25.
Un petit peu de sport maintenant.
À Mayenne, Bertrand Agesne est arrivé en juin à la tête du Stade Mayennais et s'intègre tout à fait bien à son club. Chacun y trouve son compte. Les Mayennais trouvent un regard nouveau chez lui et Bertrand Agesne cherchait un club avec de l'ambition, ce qu'il a trouvé là-bas. Et puis rapidement, l'association Parenthèse 53, qui propose un soutien aux patients qui suivent un traitement, va avoir le plaisir de voir un match de l'USL Basket qui évolue en N2 en soutien à cette fameuse association Parenthèse 53. Ce sera le dimanche 19 novembre à 16h à l'Espace Mayenne.
Et quel rendez-vous à noter pour ces brèves, pour finir ces brèves?
C'est le lâcher de lanterne le lundi 20 novembre à Laval. L'association Gomme 53, qui est le collectif LGBTQIA+ mayennais, organise cet événement pour marquer la journée internationale du souvenir trans en mémoire des victimes de transphobie. Ce lâcher de lanterne sera suivi d'une prise de parole sur le sujet. Et pour ceux qui le souhaitent, ce sera lundi 20 novembre à partir de 19h sur le parvis des droits de l'homme à Laval.
Je vous l'ai dit en début d'émission, Valentin Beuchet est animateur d'atelier, il est certifié à l'éducation aux médias, il fait partie de l'équipe de l'autre radio, on a forcément envie de lui poser quelques questions car c'est bien lui qui vous en parlera le mieux. Salut Valentin, donc tu es animateur d'atelier au sein de l'autre radio, est-ce que tu peux nous dire en quoi consistent ces ateliers ?
Salut Margot, alors animateur d'atelier radio, donc les ateliers au sein de l'autre radio, ça consiste en fait à intervenir auprès de différents publics du département de la Mayenne et en gros à faire de l'éducation aux médias et à l'information avec en général la production, comme nous sommes un média radio, la production d'un produit radio, donc ça peut être une émission, des petites chroniques, des petites capsules sonores, c'est très varié, je dirais.
Et donc tu interviens sur différentes sortes de structures, notamment des établissements scolaires, mais pas seulement.
Exactement, ouais, moi je dirais que deux tiers de mon activité, ça va être d'intervenir plutôt auprès de publics jeunes, donc plutôt vers des collèges et des lycées, mais pas que, puisque j'interviens aussi effectivement dans d'autres structures en fonction des projets qui se montent, hein. Donc par exemple j'interviens en centre médico-psychologique, je suis déjà intervenu à la maison d'arrêt de Laval, j'interviens en maison de quartier, donc c'est assez varié.
Et donc je suppose que tes objectifs sont différents selon les structures dans lesquelles tu interviens ?
Les objectifs sont assez différents, il y a quand même je dirais une ligne directrice dans mes interventions, donc c'est un peu l'intitulé de mon poste, hein, c'est d'éduquer aux médias et à l'information, donc c'est d'amener les différents publics à prendre conscience de comment se fabrique aujourd'hui l'information, notamment par le prisme du média, donc comment les médias fabriquent l'information, comment elle est diffusée au travers des publics, et donc en fait à travers cette ligne directrice, on va travailler sur la recherche d'informations, des notions journalistiques, comment on met en forme en fait les différents contenus qu'on travaille, comment on l'amène à un public, comment on travaille en équipe, comment on écrit. Bon, bref, c'est très
large.
C'est extrêmement large. Ouais. Mais il y a toujours cette ligne directrice de se demander comment ça fonctionne aujourd'hui l'information et le monde des médias.
Et alors, comment sont mis en place, comment se construisent ces projets que tu mets en place ? Est-ce que c'est toi qui vas vers des structures ? Est-ce que c'est elles qui viennent vers toi ?
Alors, en général, ce sont plutôt les structures qui viennent vers moi, parce que l'éducation aux médias et à l'information, ça fait partie des compétences. C'est ce qui est demandé, en fait, à l'éducation nationale. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup de collèges et de lycées, ce sont souvent des professeurs qui viennent vers moi. Et eux, dans leur idée, en général, c'est soit de travailler sur une thématique bien particulière avec leurs élèves, soit tout simplement en fait de leur faire pratiquer un média avec l'objectif derrière de travailler différentes compétences, l'écriture, l'oral surtout, hein, principalement. Mais voilà, c'est souvent plus des personnes qui viennent vers moi plutôt que moi qui vais vers des gens.
Ok, donc tu nous as partagé quelques chroniques réalisées par les élèves du lycée Victor Hugo à Château-Gontier. Comment ces thématiques ont été choisies pour ces chroniques ? Ils ont chacun la leur ?
Alors effectivement, donc il y a plusieurs thématiques qui sont abordées dans les chroniques. Donc c'est un travail que j'ai mené avec la professeure documentaliste du lycée et un professeur de français que je salue. Et en fait, on a travaillé sur des thématiques en lien avec la thématique plutôt écologique. Donc on va en fait, ce sont les professeurs qui ont plutôt décidé des sujets entre eux. Voilà, donc il y a la déforestation, il y a le plastique, il y a aussi des sujets un peu plus locaux comme le réemploi d'objets, hein, notamment. Et après, à partir de ces thématiques-là, les jeunes se sont placés. Ils ont travaillé en groupe de deux ou trois. À chaque fois, plutôt trois d'ailleurs, parce qu'ils sont assez nombreux. Du coup, ils ont été chercher les informations, ils ont fait de l'écriture, et puis à la fin, ils sont venus s'enregistrer dans les studios de l'autre radio, à Château-Gontier.
Et donc, je suppose que beaucoup d'enthousiasme sur ce type de projet de la part des élèves.
En général, oui, ouais, les élèves ressortent plutôt, plutôt contents des projets. Alors au départ, ils sont toujours un peu, on va pas dire craintifs, mais le média radio, c'est pas forcément un média qu'ils connaissent ou qu'ils consomment énormément. Hein. Voilà, aujourd'hui, les publics jeunes, ils sont plutôt portés vers des médias numériques, donc plutôt de la vidéo. Mais ça leur permet aussi de découvrir pour le coup un univers qu'ils connaissent pas. Donc il y a un peu la crainte au début, et puis au fur et à mesure, quand on avance, ils finissent par y prendre beaucoup de plaisir. À chaque fois, et puis ça donne des résultats assez formidables que je vous invite à aller écouter sur le site.
Ben justement, on va les diffuser dans quelques instants.
Ben voilà, c'est parfait.
Merci pour cette belle présentation, et donc on écoute tout de suite les chroniques des ateliers de l'autre radio mis en place au lycée Victor Hugo. Merci Valentin.
Merci à toi.
Et on commence donc par la chronique Fast Fashion.
Comme vous l'avez sûrement vu sur Instagram, TikTok et tous les réseaux, la mode est présente partout. Elle est aussi de plus en plus accessible avec des prix de plus en plus bas.
En tant que première consommatrice de vêtements, de grandes enseignes comme Zara, Bershka, Shein, on s'est demandé quelles étaient les conséquences de nos achats compulsifs et réguliers.
On a découvert que derrière ces grandes enseignes se cache une réelle catastrophe, la fast fashion.
Alors déjà, la fast fashion, c'est quoi ?
La fast fashion, c'est une production de vêtements rapide et pas cher qui vise principalement les jeunes comme nous. Ce mouvement a commencé dans les années 80.
Il s'est surtout développé pendant le confinement avec des trends sur TikTok. On peut par exemple parler des commandes Shein excessives.
Ok les gars, j'ai reçu un colis énorme.
Ah oui, je vous ai pas dit, c'est un colis Shein.
Alors on commence avec ces fossiles magnifiques. Oh my god, tout plié comme ça, on m'explique en fait, genre.
On commence par celui-ci, j'avais trop hâte de le recevoir.
Avec beaucoup de pubs sur tous nos réseaux, qui pour la plupart cherchent qu'à nous faire cliquer.
On a tous vu passer la nouvelle application Temu, qui propose de grosses réductions jusqu'à ne rien payer.
Qui serait contre d'avoir de nouveaux vêtements chaque semaine, sans dépenser beaucoup d'argent ?
Mais du coup, c'est quoi le problème ?
On peut commencer par parler de la façon dont les vêtements sont fabriqués. Ils sont fabriqués dans des ateliers de pays différents comme l'Espagne, la Turquie, mais surtout dans les pays d'Asie.
Par des femmes et des enfants soumis à des conditions de travail misérables.
La fast fashion a aussi un gros impact sur l'environnement. Chaque année, à l'échelle mondiale, le secteur de la mode produirait plus d'un milliard de tonnes de CO2, soit 10% des émissions de gaz à effet de serre sur Terre. L'industrie textile est le cinquième secteur le plus polluant.
D'après GreenWiz, son impact carbone serait plus important que celui des vols internationaux et du trafic maritime cumulé. Il s'agit aussi du troisième secteur qui consomme le plus d'eau après la culture du blé et du riz.
Par exemple, pour produire un t-shirt en coton, il faudrait environ 2700 litres. Le secteur de la mode est aussi classé troisième plus gros consommateur d'eau. Environ 4% de l'eau potable disponible sur Terre servirait à la production de vêtements.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer ça ?
Pour y remédier, il existe plusieurs solutions. Il faudrait d'abord commencer par réduire nos façons de consommation.
Acheter des vêtements de meilleure qualité.
Choisir des marques qui adoptent des pratiques éco-responsables ou encore privilégier la seconde main.
On aura encore le plaisir d'écouter des chroniques dans cette émission du lycée Victor Hugo, mais dans quelques instants, Caroline Delaval nous présentera Le Temps Fort, journalisme de proximité. Qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui de l'importance de créer du lien autour des sujets d'environnement sur notre territoire ? Avant ça, on écoute Suburban House de Lana Del Rey.
Oh,
see a clear open road, pretty white mountain tops, so many places to call home. I'm only just behind, but I'm already out of view. You always said snow looks so perfect when it's untouched in you. I'll sit back in my suburban house. No white picket fence is gonna save me now.
Vous écoutez L'Autre Radio et dans l'AJT du local, aujourd'hui, Caroline Delaval, notre coordinatrice, nous explique le temps fort journalisme qui se déroule toute la journée sur Château-Gontier. Bonjour Caroline.
Bonjour Margot.
Aujourd'hui est organisé par L'Autre Radio le temps fort journalisme sur Château-Gontier toute la journée. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'origine de cet événement ?
Alors oui, en fait à l'origine il y a la volonté de se réimplanter, en tout cas de relancer une dynamique sur le territoire de Château-Gontier, territoire sur lequel avait lieu pendant 10 ans, a eu lieu en fait un événement autour du journalisme qui s'appelle le Prestival, qui a été mis entre parenthèses depuis 2 ans parce que la personne qui s'en occupait ne travaille plus pour la collectivité et à la demande un petit peu de la collectivité, donc du pays de Château-Gontier, on a voulu relancer en fait une dynamique autour du journalisme et autour de l'éducation aux médias et à l'information. Donc à notre échelle, bien sûr, hein, à l'échelle de L'Autre Radio. Et les 15 ans d'antenne de la radio étaient vraiment une occasion en or pour proposer ce temps. Ce temps, donc, il est proposé en partenariat avec la Fédération des radios associatives des Pays de la Loire, à laquelle nous appartenons, qui est une fédération qui regroupe les radios associatives des différents départements avec lesquels on mutualise des contenus régulièrement tels que les petits reportages que vous entendez tous les jeudis donc, dans la quotidienne, les reportages qui sont intitulés « Pensée locale, un enjeu de société ». Donc on est parti de ça pour déployer un petit peu la thématique de la journée. L'idée, c'est vraiment de réfléchir comment le journalisme de proximité peut contribuer à faire avancer les questions d'environnement. Donc l'environnement, hein, ça touche plein de domaines différents et dans nos territoires ruraux, ça va être la culture, l'accès aux soins, l'agriculture, la mobilité. Donc il y a plein de thématiques qui sont des thématiques un peu citoyennes, en tout cas de vie de territoire, qui sont abordables par le biais du journalisme de proximité, ne serait-ce que pour montrer les différentes initiatives qui sont menées sur le territoire. Et l'idée, c'était d'impliquer les scolaires dans cette réflexion, pour qu'ils découvrent leur environnement et qu'ils s'approprient un petit peu l'outil radiophonique, mais pas que, dans une démarche de recherche et de synthèse sur ce qui peut exister sur ces problématiques-là. Du coup, la matinée sera consacrée à une rencontre professionnelle autour de l'éducation aux médias et à l'information à laquelle participent nos collègues de la FRAP, mais aussi des enseignants, des documentalistes, et c'est ouvert à tous. Donc c'était ouvert à tous, donc l'idée c'était de réfléchir ensemble comment on mène des ateliers EMI au sein des établissements scolaires.
Sous forme de table ronde.
Alors le matin, oui, il y a une présentation de projet, l'idée c'est de partager des projets porteurs. Notre journaliste invité Morgane Large viendra présenter un projet qui est duplicable, qui s'appelle « Enquête dans un verre d'eau », qui part l'analyse d'un verre d'eau dans la cantine pour aller jusqu'à la station d'épuration. Donc il y a un projet intéressant pour découvrir son environnement et parler de thématiques écologiques. La question de l'eau étant quand même centrale en ce moment.
Exactement.
Il y aura d'autres présentations de projets. Et puis ensuite, on propose trois petits ateliers où on va essayer de partager les outils, les freins, les leviers pour mener des actions EMI dans les classes. L'après-midi, il y aura donc cet après-midi là, deux rencontres scolaires avec les élèves du lycée Victor Hugo qui ont participé à des ateliers radiophoniques. Donc, ils pourront poser des questions à Morgane Large sur son travail de journaliste, puisqu'elle est journaliste dans une radio associative de Bretagne. Et puis, ce soir, une table ronde est organisée à 20h avec des acteurs locaux, qu'ils soient agriculteurs, qu'ils soient acteurs du réseau d'agriculteurs ou journalistes, en tout cas sensibles à toutes les questions écologiques dans l'agriculture. Et donc, on parlera de la gestion de l'eau en agriculture, qui est un vaste sujet. Mais voilà, on essaiera de faire un peu de pédagogie pour nos auditeurs pour comprendre comment ça marche, quels sont les enjeux, quels sont les outils de territoire pour répondre à cette question qui est une question urgente.
Et donc les publics sont conviés ce soir, donc on peut nous entendre en direct.
Oui, en fait la table ronde elle est ouverte à tous, donc ça démarrera à 20h, donc il faut arriver un petit peu avant. Elle durera environ 1h30 je pense, et puis on se laisse un temps d'échange avec le public. Et elle sera diffusée en direct sur nos ondes, donc 107.9 à Château-Gontier, 101.7 à Laval. Vous pouvez nous écouter si vous ne pouvez pas venir, ce qui est déjà bien. Voilà. Venez nombreux nous rejoindre ce soir au Rex à Château-Gontier à partir de 20h pour rencontrer les acteurs locaux qui se sentent concernés par cette question de gestion de l'eau en agriculture. Ce sera une belle soirée.
Merci Caroline. Tout à l'heure, nous étions en compagnie de Valentin qui nous parlait de ses ateliers organisés dans différentes structures sur le territoire. Je vous propose maintenant d'écouter une autre chronique réalisée au lycée Victor Hugo.
Vous qui nous écoutez, levez la main ceux qui trient leurs déchets. Ok, très bien, baissez vos mains. Alors j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous êtes déjà posé la question de pourquoi et comment recycler ?
Non.
Maintenant, venez avec nous à la rencontre de Julie et son merveilleux quotidien engagé pour le recyclage.
Donc nous avons interviewé une jeune fille, Julie Brenelière, sur ce recyclage au jeune quotidien.
Elle nous a alors expliqué que le recyclage est très présent dans sa vie. Pour vous dire, elle a 9 poubelles. Oui, oui, 9 poubelles. Elle possède aussi des panneaux solaires, elle met ses textiles à la borne Le Relais, elle trie ses déchets et récolte les déchets trouvés dans la nature pour les trier dans les poubelles colorées ou les emmener dans des entreprises comme Kilometo qui lui donnent de l'argent en fonction du nombre de masses et matériaux qu'elle recycle.
Oui, oui, Julie est un vrai exemple au niveau du recyclage. Nous la remercions pour le merveilleux témoignage et ainsi son implication pour l'environnement. Et vous, êtes-vous aussi impliqué qu'elle ?
Je dois le dire, elles sont vraiment très sympas ces chroniques, ça m'aurait vraiment, moi, beaucoup plu de découvrir la radio au lycée, de l'expérimenter de cette manière-là, parce que c'est pas forcément évident de prendre le micro, je sais pas toi Lucie, si t'as eu l'occasion plus jeune de découvrir la radio ou même d'autres médias.
Eh bien Margot, la radio spécifiquement, je l'ai découverte assez tard, aux alentours du lycée, donc c'était quand même plutôt tardif. Après moi les autres médias c'était beaucoup le cinéma, voilà, c'est plutôt différent.
En tout cas, merci Valentin pour ce partage. Et donc, pour le plaisir, avant de terminer cette émission, je pense qu'on aura envie d'en écouter une troisième. Mais Lucie, avant, est-ce que tu as un morceau à nous proposer ?
Eh bien Margot, comme toi, la météo me donne envie d'un moment calme auprès du feu. Et hier soir, je n'étais pas auprès du feu, mais j'ai pu découvrir Marta Pereira da Costa, une artiste portugaise à l'univers très délicat et poétique. Elle nous fait voyager avec une guitare portugaise propre aux joueurs de fado. Le fado, c'est un chant populaire du Portugal, souvent très mélancolique. Et donc à travers ce morceau qu'elle vous propose, elle a voulu nous faire voir un peu d'une rivière qui se jette dans la mer. On écoute Movimento de Marta Pereira da Costa.
Allez, avant de terminer cette émission, une dernière chronique et celle-ci s'appelle Continent plastique.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Voyez-vous ce que c'est le septième continent ? Non ?
Eh bien, imaginez-vous, au nord de l'océan Pacifique, apparaît bientôt sous vos yeux, à l'horizon, ce qui semble être une terre. Vous vous voyez déjà aborder cette nouvelle terre vierge et vous lancer dans une exploration d'une nature préservée. Votre bateau se rapproche encore. Mais non, vous vous apercevez que vous êtes en réalité dans une zone où la mer est saturée de débris. Ce qui est en face de vous est un lit de résidus qui s'étend à perte de vue.
Une telle surface de déchets paraît irréelle, inimaginable, et pourtant, elle existe bel et bien. Elle recouvre une immense partie du nord de l'océan Pacifique, entre le Japon et les États-Unis. Quand elle a été découverte en 1997 par un océanographe américain, elle faisait 6 fois la France. Les débris qui le composent sont à 90% faits de plastique.
Mais comment s'est-il créé ?
Cette accumulation de milliards de déchets vient des quatre coins du monde. à portée de gré du cycle des courants. Les détritus stagnent dans cette zone précise, durant plusieurs années, jusqu'à ce qu'ils soient ramassés un jour. Que s'est-il passé si les déchets plastiques ne sont pas ramassés? Ils finissent par se décomposer.
Si vous laissez vos déchets dans la nature, avec le vent et le temps, ils finiront dans les rivières, puis dans les mers, et alimenteront ainsi le 7e continent.
Mais qui impacte-t-il?
C'est d'abord l'environnement marin qui est fortement impacté. Les êtres vivants tels que les plantes aquatiques, les oiseaux marins, les poissons, les gros comme les petits, ainsi que l'homme qui les pêche et les mange.
En fin de compte, nous, les humains, qui en début de chaîne fabriquons le plastique pour répondre à nos besoins, nous sommes aussi, en bout de chaîne, nos propres victimes. C'est à nous de changer cela.
Qu'entraîne le plastique sur les animaux?
Il a été prouvé que les microplastiques affectent de façon globale les organismes marins ainsi que les oiseaux. Ces substances ont à la fois des effets chimiques et aussi mécaniques.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire le 7e continent?
La solution la plus simple pour éviter cela est de bannir l'utilisation du plastique à usage unique. Éviter d'utiliser le plus d'emballages. Merci de nous avoir écoutés.
Au revoir.
Au revoir.
La JT du local, c'est fini pour aujourd'hui. Comme vous nous avez suivis, vous le savez, aujourd'hui est une journée spéciale. L'Autre Radio, en partenariat avec la Fédération des radios associatives des Pays de la Loire, organise donc le temps fort autour du journalisme de proximité. À 20h, en direct du Rex, vous pourrez donc écouter sur nos ondes cette table ronde.
Oui Margot, c'est Caroline, notre coordinatrice, qui l'animera en compagnie de Swazik Manak-Chauvel, professeure d'économie, sociologie et sciences politiques, et la journaliste Morgane Large de Radio Crèze-Brèze sera également présente, mais aussi différents acteurs de notre territoire sensibles aux questions d'environnement qui aborderont cette thématique tous ensemble.
Cette table ronde est donc diffusée en direct et en public à partir de 20h et vous pouvez aussi faire partie donc de ce public en vous rendant au Rex à Château-Gontier. L'entrée est libre et sans réservation. Alors évidemment, la soirée ne s'arrête pas là sur l'Autre Radio.
À 22h, ce sera l'émission All Blues.
On se retrouve demain dans l'JT du local pour la dernière journée de la semaine. D'ailleurs, demain, notre micro, Dominique Fils-Aimé, avant son concert au Théâtre L'Entracte, qui aura lieu ce samedi à Sablé-sur-Sarthe. Restez à l'écoute de l'Autre Radio, à demain, et d'ici là, faites-le bien.
Bon ben, Mimi, on dirait que c'est fini.